Ok, bonsoir à tous. Alors, cette année, le thème est la crise. Et quand Françoise m'a proposé le thème, j'ai tout de suite pensé à la crise comme le moment du théâtre, au théâtre, le moment de la tragédie. Et l'année dernière, j'avais régulièrement des questions sur les femmes. Toutes les semaines, ça revenait. Les femmes chez Shakespeare, les femmes de Shakespeare, les personnages, la cour, etc. Et donc, j'avais en tête le titre « Femme au bord de la crise de nerfs » du film d'Almodovar. Et donc, c'est ce qui m'a servi de point de départ pour ces trois cours. Et cette année, donc, au lieu de faire que Shakespeare, je vais ouvrir à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque donc, cette semaine, on reste sur Shakespeare. La semaine prochaine, on voyagera de l'autre côté de l'Atlantique avec Tennessee Williams et les héroïnes qui, elles, sont littéralement au bord de la crise de nerfs, si elles ne sont pas déjà bien dedans. Et puis, on reviendra en Angleterre à la fin des années 90, la troisième semaine, avec Sarah Kane, qui est une dramaturge qui n'est pas forcément très très connue chez nous, mais qui, on la connaît par Isabelle Huppert, qui a joué notamment la dernière pièce, et qui a vraiment marqué la scène britannique du tournant du XXe siècle avec seulement 5 pièces, mais où on a vraiment une crise de la représentation, une crise des personnages, une crise vraiment totale. Donc aujourd'hui, on commence par Shakespeare, et le thème donc des personnages féminins, elles ne sont pas forcément très nombreuses chez Shakespeare, elles sont même minoritaires, mais ce sont souvent de très grands rôles, parmi lesquels Juliette, évidemment, que tout le monde connaît, Cordélia dans Le Roi Lear, mais également Volumnia dans Coriolan, Lady Macbeth dans Macbeth, et on va essayer de voir quelle est leur place dans les pièces de Shakespeare. Et avant de commencer, je ne vais pas m'intéresser aux personnages féminins de Shakespeare, mais m'intéresser aux femmes qui ont pu graviter autour de Shakespeare. C'est pour moi un moyen de vous faire une espèce de biographie de Shakespeare, mais à travers les femmes. Alors Shakespeare naît à Stratford le 23 avril 1564. Il est le deuxième fils de John Shakespeare et de Mary Arden. Ils ont été mariés en 1557. Et Shakespeare est le troisième enfant sur 8. Et avant lui, il avait deux sœurs qui sont décédées prématurément. Donc c'est le premier enfant à avoir survécu. Il épouse Anne Hathaway à l'âge de 18 ans, le 28 novembre 1582. Elle a 26 ans, 8 ans de plus que lui, et leur première fille, Susanna, est baptisée le 2 février 1553. Donc mariée en novembre, elle accouche en février, je vous laisse faire le calcul. On pense que c'est sans doute un mariage forcé, puisque Anne Hathaway était déjà bien enceinte. Des jumeaux vont naître en 1585, Hamnet et Judith, et en 1596, Shakespeare va vivre un drame avec la mort de son fils. Il sera absent de Stratford à ce moment-là. Il reviendra, mais après les funérailles. Il achètera une grande maison à Anne Hathaway pour la mettre à l'abri du besoin, puisque Shakespeare ne vit plus à Londres depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Entre 1580 et 1587, 1588, on perd la trace de Shakespeare. C'est ce qu'on appelle les années sombres ou les années perdues. Il est quelque part entre Stratford et Londres et il réapparaît à Londres tout d'abord en tant qu'acteur, puis ensuite en tant que dramaturge. Sa première pièce, Henri VI, partie 2, pas la partie 1, mais la partie 2 en premier, sera jouée en 1591. La relation qu'il a avec Anne Hathaway est une relation à distance. On pense, mais on n'en est pas sûr, qu'il rentre une fois par an à Stratford. Le résultat, il est à Londres où il a eu une autre vie. Je reviendrai sur notamment sa maîtresse et son amant. Shakespeare reviendra en 1613, donc trois ans avant sa mort, pour y prendre sa retraite. Il restera près d'Anne et il meurt en 1616. Anne va lui survivre jusqu'en 1623. Et 1623, c'est également la première édition de l'œuvre intégrale de Shakespeare, ce qu'on appelle le premier folio. Voilà, Anne, on a peu de documents sur la vie de Anne Hathaway. Elle est couchée dans le testament de Shakespeare, mais on ne sait pas exactement comment elle occupait son quotidien. On a une référence à Anne dans les sonnets de Shakespeare, le sonnet 145, que je vous ai mis donc sur le polycope. Et alors, le sonnet, alors il y a 154 sonnets, donc 145 c'est vraiment vers la fin. On pense que le sonnet n'est pas du tout à sa place hein, dans le recueil et que c'est en fait une œuvre de jeunesse qui a été déplacée. Je vous lis ce sonnet. Donc, ses lèvres, par la main de l'amour formée, ont exhalé le son qui dit « je hais » à mon adresse, moi qui languis pour elle. Mais quand elle vit ma triste apparence, aussitôt la pitié vint en son cœur. Tensant cette langue qui, toujours suave, d'habitude donnait sentence douce, elle lui apprit un autre salut. Changeant je hais par l'ajout d'une fin, qui le suit ainsi que le jour aimable succède à la nuit, qui, comme un démon, du ciel en enfer a pris son envol. De ce je hais, elle écarta la haine et sauva ma vie, disant, mais pas vous. Alors, vous ne voyez peut-être pas forcément la référence à Anne, c'est dans le texte anglais, en fait, qu'on retrouve ces références qui sont en fait des jeux de mots, l'histoire de Anne, qui en anglais est hate away, donc qui est proche au niveau de la sonorité de son nom, et puis à la toute fin du sonnet, donc le end, pardon, end saved my life, le end se prononçait comme Anne, en fait, pour montrer que c'est vraiment elle qui l'a aidé. Puisque je vous parle donc de Anne Hathaway, je vais également vous parler des autres femmes qui ont gravité autour de Shakespeare. Et on a tout d'abord celle que l'on va appeler la Dark Lady dans les sonnets, qui est une femme dont on ne connaît pas l'identité. C'est la maîtresse de Shakespeare. Il a une relation très passionnelle avec elle. Et il va lui dédier 26 sonnets entre le 127 et le 152. En comparaison, il en a dédié 120 à son amant. Donc il est d'abord cet amant et après cette relation avec la Dark Lady. On a là deux formes d'amour très très différentes. Avec le jeune homme, c'est plutôt un amour platonique, un peu idéal. Avec elle, ce sera vraiment passionnel et très physique. Alors, qui était cette femme? La critique a essayé de trouver son identité. Et c'est aussi compliqué que de savoir qui a écrit les pièces de Shakespeare. Finalement, on a une liste de prétendantes qui est assez importante. Je vais vous donner trois noms. Alors tout d'abord, il y a Mary Fitton, qui est née en 1578 et morte en 1647. Elle apparaît à la cour d'Elisabeth Ière en 1595 et elle y restera jusqu'en 1599. Et à ce moment-là, elle va la quitter temporairement, elle est malade, on pense qu'elle souffre d'une forme d'hystérie. Et puis elle revient, et en 1600, elle rencontre William Herbert, qui va devenir son amant. Elle va tomber enceinte, il ne va pas vouloir l'épouser, par contre, il va reconnaître néanmoins la paternité, et il sera emprisonné. Elle va accoucher quelques mois plus tard, mais l'enfant ne va pas survivre, il est apparemment atteint de la syphilis comme son père. Donc une vie pas très très drôle pour elle. Ensuite quelques histoires sans importance avant de se marier et d'avoir des enfants avec un certain William Paul Will et qui va partir. Ensuite elle va se remarier et elle sera veuve la dernière décennie de sa vie. Alors sa relation avec Shakespeare, on n'a aucun document qui atteste leur rencontre ou en tout cas qu'ils puissent se connaître. Le seul lien qui existe, c'est peut-être que ce fameux William Herbert était peut-être l'amant de Shakespeare, cet amant qu'on nous décrit dans les sonnets. Puisque dans les sonnets, on comprend qu'il part avec une femme. Donc voilà, peut-être ce raccourci, mais aucune preuve formelle. Par contre, on a une autre femme qui s'appelle Emilia Lanière, qui est née Emilia Bassano, qui est la première femme anglaise à se définir comme une poète professionnelle. Elle publie un recueil en 1611. Et alors, elle était proche de la cour et elle était la maîtresse d'un certain Henry Carey, qui était le cousin d'Elisabeth Ière. À ce moment-là, elle a 18 ans. Lui, il a 45 ans de plus qu'elle. Il a 62 ans, non, c'est ça ? 60 quelque chose, enfin bref, je ne suis pas très matheux. Donc elle va être enceinte aussi, elle tombe enceinte de lui, mais on va la marier avec son propre cousin à elle. Voilà, on est presque proche d'un sitcom là. Le mariage n'est pas très heureux, on peut le comprendre, ce mariage forcé. Et on a peu ensuite d'éléments sur sa vie, on a les traces de son œuvre, mais pas de sa vie. Alors son lien avec Shakespeare là est beaucoup plus logique finalement. Elle était donc au moment où elle est la maîtresse de Carey, en fait il est le Lord Chamberlain, c'est-à-dire c'est la personne qui à la cour est chargée des divertissements royaux. Et donc comme Shakespeare à ce moment-là est protégé déjà par la cour, on peut imaginer qu'ils se connaissent comme de cette manière. Alors cette Dark Lady, alors pourquoi aussi d'autres éléments qui nous font dire que ça peut être elle? Tout d'abord, on sait qu'elle vient du, qu'elle est brune, qu'elle est sans doute mat. Elle est décrite comme black dans les sonnets, et black à l'époque renvoie à la couleur des cheveux ou la couleur de la peau. Donc ça peut être elle d'un point de vue physique. Elle vient d'une famille de musiciens à la cour. Elle joue du virginal. On en parle dans le sonnet 128. Et dans le sonnet 152, Shakespeare nous dit qu'elle est promise à un autre, qui est peut-être donc Carrie. Et plus troublant encore, dans les pièces de Shakespeare, on a une Emilia dans Othello, donc son prénom, et on a un Bassanio dans Le Marchand de Venise. Bassanio, son nom de jeune fille est Bassano. Et encore plus troublant, dans Titus Andronicus, on a un Melius et Bassanius. Donc voilà, peut-être c'est un clin d'œil à elle. On a une troisième femme qui a été découverte l'année dernière par un critique. C'est beaucoup moins glamour cette fois-ci. Une certaine Lucy Negro, qui était en fait une prostituée et qui tenait un bordel à Londres. Voilà. Lucy, Negro. Okay. Et elle était surnommée Black Luce. Donc encore une fois, ce black un peu renvoyé à son teint. Voilà donc pour quelques-unes de ces femmes-là. Et puis il y en a une troisième que je vais aborder et qui, alors, n'est pas du tout la femme des sonnets, mais c'est Élisabeth Ière, évidemment, hein, qui accorde une importance, qui a une importance primordiale dans la vie de Shakespeare. Donc la troupe de Shakespeare, hein, la troupe qu'on appelle The Lord Chamberlain's Men, était sous la protection de la cour, et Shakespeare a travaillé pour la majeure partie de son œuvre avec cette compagnie. En 1603, à la mort d'Elisabeth Ière, la troupe va changer de nom et s'appeler The King's Men, pour être sous la protection cette fois-ci de Jacques Ier, le successeur d'Elisabeth. Elisabeth Ière, donc, qui est reine de 1558 à 1603, un règne de 45 ans, aime beaucoup les arts. Elle pratique elle joue de la musique. Chaque matin, elle fait une demi-heure de gaillarde, qui est une danse de la Renaissance, et son entraînement avec son artiste irlandais qui est à la cour. Elle s'intéresse évidemment au théâtre, et il y a à peu près 500 artistes qui ont gravité à la cour durant son règne. Et Shakespeare donc a joué régulièrement des pièces auprès d'Elisabeth Ière. On n'a pas toujours de traces des pièces qui ont été représentées. On a souvent les dates, mais pas forcément la pièce. Et on voit de nombreuses références dans les pièces de Shakespeare à la reine. Donc dès que vous avez une référence notamment à la virginité, c'est une référence à Elisabeth, puisqu'elle était surnommée la reine vierge. Donc toutes ces références-là sont pour elle, mais également des références à Diane, la déesse de la chasse, c'est également une référence à Elisabeth, et puis également Gloriana, qui est l'un de ses surnoms, et on a notamment un long poème de Spenser qui s'appelle The Fairy Queen, et le personnage principal s'appelle Gloriana, et c'est en fait un personnage allégorique symbolisant Elisabeth. Juste pour vous donner un exemple, la deuxième citation du Songe d'une nuit d'été, où on a une forme de presque déclaration d'amour adressée à Elisabeth. À cet instant je vis, mais tu ne puis le voir, volant entre la terre et la lune glacée, Cupidon tout armé qui prenait comme cible, trônant à l'Occident, une belle vestale. Il décocha si bien cette flèche d'amour qu'il semblait qu'elle dût percer 100 000 cœurs. Mais je pus voir ce trait de feu de Cupidon dans les chastes rayons de notre humide lune se refroidir, et la prêtresse impériale passa dans ses pensées de vierge cœur indemne. Donc là, vous voyez, vous avez en plus la référence à la virginité ici, hein, qui vient confirmer. Dans également Henri VIII, la pièce Henri VIII, qui est la dernière pièce que Shakespeare a écrite, qui retrace pas la vie entière d'Henri VIII, mais en tout cas son divorce de Catherine d'Aragon et sa rencontre avec Anne Boleyn, donc la période du schisme dont ma collègue vous parlera dans son cours. Et on a vraiment des références à Elisabeth. Alors, pour vous resituer, Elisabeth, au moment où elle naît, elle n'est pas du tout appréciée, elle n'est pas désirée. Déjà, c'est une fille. Et en plus, il l'a avec Anne Boleyn, qui est sa deuxième épouse, qui n'est pas très bien vue ni par la cour ni par certains ambassadeurs, qui refuseront d'assister au baptême d'Elisabeth. Mais lorsque Shakespeare écrit Henri VIII, on est en 1613, on est 10 ans après la mort d'Elisabeth, donc on a son règne, et là on a une longue tirade de Cranmer qui, à la naissance d'Elisabeth, va vanter ses louanges, ses mérites, ce qui est complètement, en fait, d'un point de vue historique, complètement faux. Mais voilà, dans l'idée, c'est que Shakespeare va mythifier la famille Tudor, et notamment Elizabeth. Je vous lis la citation donc, numéro 3. « Sire, laissez-moi parler, car le ciel me l'ordonne et que personne ne voit flatterie en mes paroles. On y trouvera le vrai. Cette royale enfant, le ciel soit toujours avec elle, bien qu'en son berceau promet déjà pourtant pour ce royaume mille et mille bienfaits que le temps mûrira. Elle sera, mais parmi ceux qui vivent aujourd'hui, peuvent voir cette perfection, le modèle des princes de son temps et de tous ceux qui suivront. La reine de Saba n'a pas été plus avide de sagesse et de belles vertus que ne le sera cette âme pure. Toute grâce princière qui façonne le magnifique chef-d'œuvre qu'elle est, avec toutes les vertus qui ornent les gens de bien, seront redoublées en elle. La vérité la nourrira. Saintes et célestes pensées seront toujours ses guides. Elle sera aimée et crainte, les siens la béniront. Ses ennemis trembleront comme fait un champ de blé dont les épis battus s'inclinent tristement. Le bien croîtra avec elle. En son temps, chacun mangera en sûreté sous sa vigne ce qu'il aura planté et chantera de joyeux airs de paix pour tout le voisinage. Dieu sera connu dans la vérité et ceux qui l'entourent apprendront d'elle les joies parfaites de l'honneur. C'est de lui qu'ils tireront leur grandeur, non du sang. Cette paix ne s'endormira pas avec elle, mais comme lorsque meurt l'oiseau merveilleux, le virginal phénix, de ses cendres renaît un nouvel héritier. Tout aussi admirable que lui, de même, quand le ciel la retirera de ses sombres nuées, elle lèguera la faveur divine à quelqu'un qui, des cendres sacrées de l'honneur de la reine, montera comme un astre, égalant son renom et y restant fixé. Paix, abondance, amour, vérité et terreur servant l'enfant choisi seront alors les siens et s'attacheront à lui comme la vigne. Partout où le ciel brillera dans le ciel, là seront son honneur, la grandeur de son nom qui créeront de nouvelles nations. Il prospérera et, comme un cèdre des montagnes, ses branches s'étendront au-dessus des plaines alentours. Nos petits-enfants verront cela et béniront le ciel. Pour le bonheur d'Angleterre, elle deviendra princesse âgée. Des jours en grand nombre la verront, et aucun qui ne soit couronné d'un haut fait. Puissais-je ne rien savoir de plus, mais il faut bien qu'elle meure, il le faut. Il faut que les saints la reçoivent, vierge encore, lisse parfaitement sans tache, elle sera mise en terre et le monde tout entier la pleurera. » Donc, on a dans cette réplique, très rapidement pour vous l'analyser, on a un glissement d'Elisabeth vers Jacques Ier. On voit quand il parle de l'héritier dans la deuxième partie de la réplique, c'est donc une référence à Jacques Ier comme souverain légitime. Là, on sent que Shakespeare légitimise l'arrivée de Jacques Ier sur le trône. Je vous rappelle qu'Elisabeth n'avait pas d'enfant et donc c'est le fils de sa cousine Mary Stuart, qu'elle a fait décapiter, qui va monter sur le trône. Et donc Shakespeare, en 1613, il joue pour un public de la cour de Jacques Ier. Donc, il est obligé aussi, enfin, de glorifier les deux souverains. Et vous avez évidemment toutes les références à la virginité à la fin de la tirade. Je ne suis pas sûr que les saints l'aient reçue complètement vierge, Elisabeth, mais bon, l'histoire ne nous le dira pas. Voilà pour le contexte un peu hein, de cette vie de Shakespeare et des gens qui gravitent autour de lui, les quelques femmes. Et maintenant, avant de parler des personnages féminins, je vais vous parler des femmes au théâtre. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire puisqu'il n'y a pas de femmes qui jouent sur scène à l'époque. Tous les rôles féminins sont joués uniquement par des acteurs. Alors, les premières femmes qui seront autorisées à monter sur scène le seront en 1662, à la Restauration. Les théâtres vont être fermés en 1642, c'est le début de la guerre civile et après l'arrivée de Cromwell, la République de Cromwell, donc une dictature. Et à ce moment-là, les théâtres vont être fermés et ils réouvriront en 1660 lorsque Charles II, le fils de Charles Ier, montera sur le trône. Et lui va autoriser les femmes. Pour vous donner une comparaison, en France, les actrices professionnelles apparaissent dès 1629, donc en gros une trentaine d'années avant l'Angleterre, et ce qui avait à l'époque provoqué un tollé en Angleterre, lorsqu'on a su que les femmes avaient le droit de monter sur scène. Et en 1662, donc, on a un décret royal qui officialise l'ouverture de la profession aux femmes. On a déjà quelques amateurs à la cour de Charles Ier, son père. Alors, ce sont donc des hommes qui vont jouer les personnages féminins. Ce sont souvent des jeunes hommes. On va prendre, tant qu'on peut, des garçons prépubères pour qu'ils aient une voix, évidemment, plus aiguë, qu'ils n'aient pas de barbe. pour avoir des traits le plus fins possible. Et d'ailleurs, Shakespeare, dans son théâtre, nous parle de ses acteurs. Il faut savoir que quand vous lisez une pièce de Shakespeare, et vous pouvez lire n'importe quelle pièce, vous allez toujours avoir des références au théâtre. C'est le théâtre qui parle du théâtre, ce qu'on appelle le métathéâtre en fait. Et donc on peut avoir plein d'informations sur la manière dont on joue les pièces, mais également sur les acteurs qu'il porte plutôt... qu'il tient plutôt en haute estime. Et je vous donne deux exemples. Le premier, c'est l'épilogue de Comme il vous plaira. C'est Rosalinde qui vient le déclamer. Et elle nous dit: vous n'avez pas coutume de voir l'épilogue habillé en femme, mais cela n'est pas plus malséant que de voir le prologue en habit d'homme. Si le proverbe est vrai que le bon vin n'a pas besoin d'enseigne, il est également vrai qu'une bonne pièce n'a pas besoin d'épilogue. Cependant, on annonce le bon vin par de bonnes enseignes, et les bonnes pièces paraissent encore meilleures avec le secours de bons épilogues. Dans quelle position embarrassante suis-je donc placé, moi qui ne suis point un bon épilogue, et qui ne peux pas non plus vous captiver en faveur d'une bonne pièce? Je ne suis point équipé en mendiant, il ne me conviendrait donc pas de vous supplier. Si j'étais une femme, j'embrasserai tous ceux qui, parmi vous, auraient des barbes qui me plairaient, des physionomies à mon goût et des haleines qui ne me rebuteraient pas. Il ne devait pas y en avoir beaucoup à l'époque. Et je suis sûr que tous ceux d'entre vous qui ont de belles barbes, des figures agréables et de douces haleines ne manqueront pas, en reconnaissance de mon offre gracieuse, de me dire adieu quand je vous ferai la révérence. Donc là, vous voyez hein, le personnage de Rosaline qui, en plus dans la pièce, à un moment se travestit en homme. Donc, on se retrouve avec des situations où vous avez des acteurs hommes qui jouent des femmes qui se travestissent en hommes. Donc ça devient compliqué pour le coup. Mais ce ne sont pas, et c'est là le piège, ce ne sont pas des hommes qui jouent des hommes. Il faut que lorsqu'ils jouent des hommes travestis, il faut qu'ils gardent quand même cette part de féminité. Donc on a vraiment toute une complexité dans l'interprétation. Et puis on a également dans Le songe d'une nuit d'été, dans cette pièce-là, on a des artisans qui doivent monter une pièce de théâtre qui est complètement ratée, hein, ils ne sont pas très doués. Et là, on a une référence à ce qui se passait à l'époque. Ce sont des artisans et on avait, au Moyen-Âge notamment, des guildes d'artisans qui jouaient. Donc il n'y avait pas de théâtre professionnel à l'époque et Shakespeare le transpose dans sa pièce. Et là, donc on vous dit, donc la citation numéro 5, « Il faut que vous vous chargiez du rôle de Thisbé. Qu'est-ce que c'est que Thisbé? Un chevalier errant? C'est la beauté que Pyram doit aimer. Non, vraiment, ne me faites pas jouer le rôle d'une femme, j'ai de la barbe qui me vient. Cela est égal, vous le jouerez sous le masque et vous pourrez faire la petite voix tant que vous voudrez. Si je peux cacher mon visage sous le masque, laissez-moi jouer aussi le rôle de Thisbé. » Ça me paraît un peu compliqué de jouer les deux pour les scènes en commun. Quand on vous parle de masque ici, ce n'est pas forcément le masque en tant qu'accessoire de théâtre, mais c'est le masque en fait qui était porté régulièrement par les femmes pour, j'allais dire, ne pas bronzer. Bon, bronzer en Angleterre, c'est un peu compliqué, mais en tout cas pour rester le plus pâle possible. La pâleur est un critère de beauté. Voilà, donc c'est sans doute une référence à cet accessoire-là. Voilà pour les rôles, pour les acteurs. Et avant de venir vraiment donc aux femmes en tant que personnages, quelques mots mais très très rapides sur la critique féminine de Shakespeare. Dès la fin du 19e, on a une critique qui va s'intéresser aux personnages de Shakespeare pour en souligner les attributs positifs que Shakespeare leur donne. Et on dit souvent en fait que Shakespeare a de manière relativement réaliste capturé l'essence de la féminité. En 1895, dans un ouvrage qui s'appelle « Les femmes de Shakespeare », tout simplement, on peut lire dans la préface de la traduction anglaise « De tous les personnages de Shakespeare, ces femmes sont peut-être les personnages les plus attirants, mais aussi, dans un sens, ses créations les plus originales. Elles sont si différentes dans leur ensemble des idéaux féminins de la littérature de la période. » Et dans cet ouvrage, l'auteur, donc Lewis, les porte également au nu en concluant que le poète a ouvert les profondeurs de la nature de la femme, à l'intérieur desquelles, en plus d'une émotion exquise et charmante, de terribles passions jouent leur rôle dangereux et fatal. Et généralement, jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe, les femmes sont toujours traitées dans une approche très conventionnelle. Ce sont toujours des personnages que l'on considère soumis. Et donc la critique ne va pas être tendre lorsqu'il va s'agir d'analyser des personnages comme Rosalind. Rosalind est une femme qui va se travestir en homme et lorsqu'elle devient homme, elle peut se permettre de dire des choses qu'elle ne pourrait pas dire en femme. Et puis ensuite, avec les années 60, on a toute la critique féministe qui va commencer à s'emparer de ces personnages, à avoir une autre vision. Et puis, au début des années 2000, une nouvelle lecture féministe, cette fois notamment à travers le prisme du corps. C'était vraiment la mode en littérature de traiter le corps sous tous ses aspects. Et donc, ça va être adapté par les féministes. Alors, je vais vous donner quelques archétypes féminins des personnages shakespeariens. Alors, je vais caricaturer volontairement puisque je ne crois pas que les personnages soient vraiment des archétypes, mais c'est vraiment plus complexe. Hein. Souvent, ce sont des personnages qui sont toujours à la frontière de deux archétypes et vous voyez qu'on peut parfois les classer dans plusieurs catégories. Alors, tout d'abord, on a deux opposés. On a la femme débauchée qui s'oppose à la femme innocente qui a toujours un destin tragique. Elle n'a pas de chance. Hein. Plus elle est innocente, plus elle va mourir vite. La femme débauchée, tout d'abord, elle est généralement de condition modeste. Elle n'a pas vraiment de rang à tenir. Donc, elle peut se permettre de dire un peu pas tout et n'importe quoi, mais se permettre certaines familiarités. Et notamment, on a pas mal d'allusions sexuelles de la part de ces personnages-là. Je pense notamment au personnage de la nourrice dans Roméo et Juliette, qui est un peu brute de décoffrage parfois dans ce qu'elle peut dire. Et ces personnages-là, dans les tragédies, permettent en fait de soulager la tragédie, ce qu'on appelle en anglais le comic relief. C'est-à-dire que c'est l'intrusion du comique dans la tragédie pour qu'on puisse avoir un peu le temps de souffler. Comme on aura dans la comédie des passages très poétiques pour justement faire un peu retomber l'ambiance, si je puis me permettre. Pour vous donner d'autres personnages de ces femmes débauchées, on a donc la nourrice, on a Margaret dans Beaucoup de bruit pour rien, ou Audrey dans Comme il vous plaira. Et alors, ces femmes sont à l'opposé de cet idéal un peu de la Renaissance qui serait une femme chaste, obéissante et silencieuse. Elles en sont un peu loin. Par contre, on a effectivement cette femme innocente. Alors, souvent, ces personnages innocents ont la même destinée. Toujours pure et chaste au début de la pièce, et puis elles vont perdre leur innocence, et par la perte de cette innocence, elles vont entraîner leur destin tragique. Ce sont elles des femmes plutôt nobles, ce qui rend leur chute finalement encore plus brutale et plus tragique. Et généralement, la seule issue possible, c'est la mort. On va penser à Juliette, évidemment, qui paraît très innocente par son jeune âge, mais qui, en fait, on verra un peu plus tard, n'est absolument pas. Et qui, du moment qu'elle échafaude des plans pour épouser Roméo, pour le voir, etc., va amener sa propre mort. On a également Lavinia, dans Titus Andronicus, qui est un personnage violé et mutilé, puisque après son viol, on ne veut pas qu'elle parle. Donc pour qu'elle ne puisse pas raconter son viol, on va lui amputer les mains pour pas qu'elle ne parle, et on lui ampute la langue également pour éviter la parole. Et donc elle sera tuée pour un peu sauver l'honneur de la famille. On peut penser aussi également à Ophélie qui, par sa fréquentation d'Hamlet, va sombrer dans la folie puis au suicide. Et proche de cette catégorie de femmes innocentes, c'est la femme mariée, mais qu'on va accuser d'adultère à tort. Et c'est par exemple donc Desdemona qui est tuée par Othello, puisqu'il l'accuse d'être infidèle. Mais également dans la comédie Beaucoup de bruit pour rien, on a Héro qui se fait passer pour morte lorsqu'elle est accusée par Claudio. Alors c'est une stratégie pour qu'elle puisse voir s'il a des remords. Voilà, donc si vous voulez tester l'amour de votre conjoint ou conjointe, vous faites comme ça, vous faites croire que vous êtes mort et vous verrez ce que ça donne. Ensuite, donc, on a celle qu'on va appeler la femme fatale, qui est toujours intrigante, évidemment. Alors là, on est loin de l'héroïne innocente, ce sont des femmes de pouvoir, elles sont au cœur de toutes les manigances. Elles veulent arriver à leur fin, et pour elles, tous les moyens sont bons. Et là, je pense évidemment à Lady Macbeth, notamment, dont je reparlerai un peu plus tard, qui va manipuler son mari pour obtenir le pouvoir, mais qui finira par se suicider. Mais on peut également penser à Goneril et Regan, les deux des trois filles de Lear, qui sont prêtes à tout pour prendre le pouvoir et prendre le royaume. Ce sont souvent des femmes intelligentes, manipulatrices, mais au funeste destin. Elles sont quand même toujours punies à la fin. Et c'est, je me suis rendu compte en faisant, en préparant la fin du cours, c'est ces femmes-là que je vais le plus traiter. Je trouve que ce sont les personnages finalement les plus intéressants, car les plus ambigus finalement. On a les femmes travesties en hommes, dont je vous parlais un peu plus tôt, donc que l'on trouve dans les comédies, comme Rosalind dans Comme il vous plaira, mais également Viola dans La nuit des rois. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces femmes, une fois habillées en hommes, vont avoir beaucoup plus de liberté dans leur parole. Et donc là, on voit une espèce de contre-pied par rapport aux femmes de la société élisabéthaine qui étaient enfermées dans une espèce de carcan. Enfin, deux types de femmes en rapport avec le mariage. Tout d'abord, la femme intelligente, mais qu'on n'arrive pas à marier. Ça, c'est son problème. Des personnages indépendants, audacieux, francs, intrépides. C'était le grand drame de la critique féministe, c'est qu'à la fin, on trouve quand même à les marier. Et donc les féministes trouvent que finalement ça, on les remet dans un rapport de soumission. J'imagine qu'elles auraient aimé qu'on les laisse célibataires et indépendantes, mais elles sont remises à leur place et promises au mariage. Et là je pense notamment au personnage de Béatrice dans Beaucoup de bruit pour rien, ou encore Catherine dans La mégère apprivoisée. Et puis enfin, à l'opposé, celle qui est promise au mariage, son destin est déjà tout tracé. Ce sont des femmes qui sont finalement à considérer comme des possessions de leur père qui les promet à des époux. Alors on peut penser à Miranda dans La Tempête par exemple, ou encore pardon, à Elena ou à Hermia dans Le Songe d'une nuit d'été, où là on a toute une partie de l'intrigue qui tourne justement autour de qui aime qui va épouser qui est promis à qui, si bien qu'au milieu de la pièce on ne sait plus trop quel couple est censé se marier à la fin. Voilà. Maintenant je vais en venir vraiment donc aux personnages féminins dans les tragédies, et je vais prendre quelques exemples, peut-être des personnages les plus connus. Je vais prendre Juliette et sa nourrice dans Roméo et Juliette, je vais prendre Lady Macbeth, Cordelia et ses sœurs dans Le Roi Lear, et Volumnia dans Coriolan. Alors une petite parenthèse encore sur les tragédies de Shakespeare. Shakespeare est l'auteur d'une dizaine de tragédies. Son premier essai, c'est Titus Andronicus, vers 1595. Une pièce qui n'est pas portée en haute estime par la critique. C'est vrai que ça porte presque à rire, tellement il y a des parties grotesques avec on a des viols, on a des morts, on a de l'anthropophagie à la fin de la pièce. C'est presque, voilà, c'est trop d'horreur tue l'horreur finalement. Donc ça porte plus à rire, et la critique a souvent pensé que c'était une pièce plutôt ratée. Et puis il va remettre ça avec Roméo et Juliette vers 1595-1596 également. Et bon, là, on connaît le succès de cette pièce-là. Et la période des tragédies est une période assez concentrée entre 1600 et 1610. Et là, on a toute la série vraiment des grandes tragédies que l'on connaît tous, c'est Macbeth, Othello, Le Roi Lear, Hamlet, ainsi que les pièces romaines, Coriolan, Jules César et Antoine et Cléopâtre. Alors, donc le rôle des femmes dans ces tragédies-là, j'ai commencé par Coriolan, qui est, avec Lady Macbeth, une femme qui a énormément de pouvoir et d'ascendance. Dans Coriolan, l'ascendance est sur le fils, dans Macbeth, c'est sur son mari. Alors, pour vous résumer l'intrigue de Coriolan, donc, Coriolan est originaire d'une famille patricienne, il se distingue au combat, mais il affiche une haine et un mépris très clair contre la plèbe qui lui font perdre les élections consulaires. Et en raison de la colère qu'il affiche, on va l'exiler, et une fois en exil, il va s'allier à l'ennemi Volsc et il va revenir à Rome pour assiéger la ville. Et c'est un convoi, le terme est peut-être pas très joli, mais une délégation en tout cas de femmes qui va venir convaincre Coriolan de ne pas attaquer Rome. Et dans cette délégation de femmes, il y a évidemment sa mère qui va le convaincre. Malheureusement, je vous ruine à chaque fois à la fin des pièces, mais Coriolan va mourir, hein, puisque en voulant faire plaisir à sa mère, donc en acceptant de ne pas assiéger Rome, pardon, il sera tué des mains d'Officius. Donc on a vraiment cette opposition très claire. Alors il y a trois rôles féminins dans cette pièce. On a Volumnia, la mère dont je viens de vous parler, Virgila, l'épouse de Coriolan, et puis Valeria, alors qui est présentée comme une chaste dame romaine. Elle n'a pas un rôle très très important dans la pièce, mais elle permet en fait de contrebalancer le personnage de Volumnia, c'est donc le personnage de la mère. Alors, Volumnia, c'est une femme qui est orgueilleuse, elle est pleine d'honneur, elle est très ambitieuse pour son fils, dont elle éprouve une très grande fierté. Elle rêve pour lui de gloire, à la fois sur le plan militaire et politique. Mais là, on a une opposition entre la mère et le fils. C'est qu'elle, elle rêve de pouvoir pour lui, sauf que lui ne veut pas d'un pouvoir du peuple. Il méprise trop le peuple pour en tirer son propre pouvoir. Mais néanmoins, Coriolan fait preuve d'un certain orgueil. On voit que lorsqu'il perd les élections, il est dans une colère monstre qui va le pousser à l'exil. Alors, on a donc une opposition très nette entre la mère et le fils à l'acte 3, scène 2. C'est la première citation. Donc c'est au moment où Coriolan a perdu les élections et il se lance dans une très longue diatribe contre le peuple, et Volumnia va le sommer de s'excuser, et il va finir par accepter de s'excuser, pas parce que il n'y a pas d'intérêt stratégique d'un point de vue diplomatique, mais uniquement parce qu'il se rend compte qu'il est peut-être en train de perdre sa mère. Donc je vous lis la citation. Donc, je t'en prie, mon cher fils, de même, tu l'as dit que mes louanges t'ont d'abord fait soldat, de même, pour obtenir ici ma louange, remplis un rôle que tu n'as pas encore joué. T'implorer est pour moi un plus grand déshonneur que de te voir les implorer, que tout se ruine, que ta mère pâtisse de ton orgueil plutôt qu'elle craigne ta dangereuse obstination, car je me moque de la mort avec autant de cœur que toi. Fais comme tu veux, ta vaillance fut mienne, tu l'as sucée avec mon lait, mais ne dois ton orgueil qu'à toi-même. De grâce, calmez-vous, ma mère, je vais aller sur la place du marché, cessez de me gronder. Et je trouve que bon, le vocabulaire est quand même très bien choisi. Hein. On a vraiment une position infantilisante pour Coriolan. Coriolan, d'ailleurs, qui est qualifié dans la pièce par Ophidius de Boy of Tears, donc un garçon pleurnichard, pleurard, donc qui montre encore une fois cette dépendance. Donc, une fois banni de Rome, comme je vous le disais, c'est sa mère qui va essayer de le décourager d'attaquer Rome. Il va d'abord refuser, puis il va finir par s'incliner à la fois moralement, puis physiquement. Et donc là, en acceptant la demande de sa mère, il signe son arrêt de mort. C'est la citation donc suivante. Coriolan s'agenouille. « Oh, relève-toi et sois béni. » Tandis que sans coussin plus doux que le silex, je m'agenouille devant toi, et malgré les convenances, montre que jusqu'ici le respect s'est mépris entre enfants et parents. Qu'est-ce là, à genoux, devant le fils que vous venez de corriger? Nous allons donc regagner Rome, et mourir parmi nos voisins. Il lui tient la main, silencieux. Ô mère, mère, qu'avez-vous fait? Voyez, le ciel s'ouvre, les dieux abaissent leurs regards, et de cette scène contre nature, ils se moquent. Ô ma mère, ô vous avez pour Rome remporté une heureuse victoire. J'ai pas les mêmes. Excusez-moi, je suis un peu. Oui. On est sur la page 3, pardon. Voilà. Mais quant à votre fils, croyez, oh croyez-le, votre triomphe sur lui est des plus dangereux, sinon des plus mortels. Mais advienne que pourra. Ophidius, si je ne peux plus faire une vraie guerre, je ferai une paix convenable. Bon Ophidius, dites-moi, auriez-vous à ma place moins écouté une mère? Auriez-vous accordé moins de choses, Ophidius? Donc là, on comprend très bien la fin de la pièce. On sent quand même que Volumnia, elle est un peu comédienne sur les bords. On sent quand même une culpabilité. Elle essaye de vraiment faire culpabiliser son fils, et à chaque fois, ça marche. Donc voilà pour Volumnia, qui, d'un point de vue psychanalytique, a été qualifié par la critique d'une mère castratrice. Bon, je suis pas, c'est pas vraiment mon délire, la lecture psychanalytique, donc je me lancerai pas là-dedans ce soir. Je vais passer à Lady Macbeth, qui est donc elle aussi une femme de pouvoir, et qui elle va avoir une ascendance sur son mari cette fois-ci. Alors, pour vous résumer Macbeth, il va rencontrer ce que la critique appelle des sorcières, même si ce ne sont pas des sorcières comme nous on l'entend, ce sont plutôt des femmes qui prédisent l'avenir, et qui prédisent à Macbeth un destin glorieux et elle lui assure le pouvoir. Mais avant cela, il va falloir que le roi qui est en place meure. Et donc, Lady Macbeth, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser son mari à tuer le roi. Et ça marche. Donc vous avez les citations de l'acte 1, scène 5. Donc, Lady Macbeth qui dit « Et tu feras ce qui t'est promis, mais je crains ta nature. » Elle est trop pleine du lait de ta bonté, de la bonté humaine pour aller droit au but. Tu voudrais la grandeur, mais ton ambition n'a pas la malfaisance qui doit l'accompagner. Ce qu'ardemment tu désires, tu voudrais l'obtenir saintement, jouer franc jeu, tout en gagnant à tort. Tu voudrais, grand Glamis, ce qui crie, voici ce qu'il faut faire pour l'obtenir, et ce que tu préfères craindre de commettre plutôt que de souhaiter ne l'avoir pas commis. Accours que j'infuse mes ardeurs à ton oreille et que pour la valeur de ma langue châtie tout ce qui te détourne de ces cercles d'or dont le destin et le secours surnaturel semblent vouloir te couronner. » Donc là, on voit bien l'opposition entre Macbeth, lui qui serait plutôt honnête, qui va attendre, et elle qui, assoiffée de pouvoir, va provoquer l'ascension de son mari. Un peu plus tard, donc, dans la même scène, « Venez, esprit serviteur du meurtre, m'ôter ici mon sexe, et de la tête aux pieds, m'emplir à déborder d'horribles cruautés. Épaississez mon sang, afin qu'aucun accès ne s'ouvre à la pitié, et qu'aucun retour de compassion naturelle n'ébranle mon cruel dessein, ni ne s'oppose à son exécution. Venez dans mes seins de femme, changez leur lait en fiel, ministre meurtrier, ou que vous soyez, substance invisible, soutien du mal dans la nature. Viens, nuit épaisse, vais-toi de la plus sombre fumée de l'enfer, que mon couteau tranchant ne voit pas la blessure, ni l'œil du ciel ne perce le rideau des ténèbres pour me crier « Arrête ». Alors, les références à la nuit sont très nombreuses en Macbeth. C'est une pièce qui se passe essentiellement la nuit, c'est une pièce qui est très sombre, et qui est souvent, en fait, résumé, en fait, le seul thème qui est important dans cette pièce, c'est vraiment le meurtre. Tout est question de meurtre, on a toute une série de meurtres qui vont entraîner à la fois l'ascension du héros, mais malheureusement, dès qu'il arrive au pouvoir, ça chute. Et là, vous avez vraiment le schéma de la tragédie, c'est vraiment l'ascension et la chute du héros. Et dans Macbeth, il y a vraiment une vision très dichotomique. Il y a d'un côté ceux qui tuent et de l'autre côté ceux qui sont tués. On a l'impression qu'il n'y a pas de place vraiment pour l'entre-deux dans cette pièce. Et le destin de Macbeth est lié à celui de son épouse, évidemment, puisque dans la première partie de la pièce, c'est elle qui va le pousser à tuer. Donc, ils vont évoluer ensemble jusqu'à l'acte 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils vont être couronnés, tout de suite, bon, ils se rendent compte que finalement le pouvoir, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Hein. Donc vraiment, il y a une déception. Et puis la deuxième moitié de la pièce va cette fois-ci les opposer complètement. Et on voit bien que ils sont unis dans le crime, mais pour le châtiment, ils vont être isolés. On a donc des destins parallèles. Macbeth, lui, va sombrer dans l'insensibilité, cette même insensibilité qui était prônée par Lady Macbeth au début de la pièce. Alors que elle va sombrer dans la folie, toute la force et le courage qui la caractérise au début de la pièce vont s'effondrer. Et elle va finir par se suicider d'ailleurs. Je vais passer maintenant à Roméo et Juliette, d'autres femmes. Une pièce que tout le monde connaît. La critique, en fait, a souvent pensé que la pièce était plutôt axée sur Roméo plus que sur Juliette, en fait. On a toujours tendance à présenter Juliette comme ce personnage un peu innocent. Elle est jeune, elle est candide, elle est romantique, etc. Or, en fait, on voit quand même dans la pièce que c'est elle qui tire les ficelles de l'intrigue. D'un point de vue linguistique, on le voit notamment par le passage à la versification. Du moment que Juliette est là, on va avoir un passage en vers. Donc on voit très bien ce changement. Et c'est un personnage obstiné, on le voit bien, puisque c'est elle qui va embrasser Roméo la première fois, c'est elle qui va le demander en mariage, donc on a une inversion. Et elle paraît être en fait l'opposé de Roméo, qui paraît plus impulsif, alors que finalement on se rend compte que c'est elle qui prend de nombreuses décisions. Le personnage de Juliette, je crois qu'il faut le lire avec le personnage de la nourrice. Ce sont deux personnages qui fonctionnent ensemble. La nourrice, c'est l'alliée, la confidente, la conseillère de Juliette. Elle fait fonction de mère de substitution. On nous dit qu'elle avait une fille, elle avait elle-même une fille qui est morte, qui était née en fait le même jour que Juliette. Et donc il y a un lien très proche entre elles qui fait qu'elles peuvent parler très librement dans la pièce. La nourrice va permettre à Juliette et Roméo de se rencontrer, mais en tout cas de connaître l'identité de l'autre. Et c'est également elle qui va servir de messagère entre eux. Elle va notamment récolter des informations sur le mariage à venir pour les transmettre à Juliette. Elle va informer Juliette de l'exil de Roméo après la mort de Tybalt. Et c'est elle également qui va arranger la nuit de noces et le départ de Roméo. Donc on voit bien en fait ici qu'elle trahit finalement la famille pour laquelle elle travaille. Juliette, elle n'est pas du côté des Capulet, elle n'est pas du côté des parents, elle est du côté de la fille Capulet. On sent que ce qui lui importe vraiment, c'est le bonheur de Juliette, c'est son destin à elle. Et on sent son dévouement pour la fille beaucoup plus grand que celui qu'elle peut avoir pour les parents. Et dans cette relation qui les unit, il va y avoir un retournement en fait qui est marqué par le bannissement de Roméo. La nourrice annonce l'exil, puis elle suggère à Juliette qu'elle devrait oublier Roméo et épouser Paris. Là, on sent quand même que la nourrice essaye de faire redescendre Juliette sur terre. Et Juliette va perdre confiance en sa nourrice. Et là, elle n'est plus du tout sa confidente. Et elle va se tourner vers Frère Laurent, qui était, lui, le confident de Roméo. Ce sont les deux citations donc de Roméo et Juliette. Donc la première, c'est d'abord donc acte 3, scène 2. Les hommes sont sans loyauté, sans foi ni loi. Tous parjurent, tous faussaires, tous vauriens, tous menteurs. Sympa Shakespeare pour les hommes. Ah, où est ce valet ? Apporte un peu d'eau de vie. Ces malheurs, ces tourments, ces chagrins me font vieille. Honte à ce Roméo. Que la langue te pèle pour ce vœu. Roméo n'est pas né pour la honte. La honte a honte de paraître sur son front. C'est un trône où l'honneur peut être couronné, unique souverain de la terre entière. Ah, que je fus ignoble en lui faisant reproche. L'assassin de Tybalt, vous en diriez du bien, mais il est mon mari, puis-je en dire du mal ? Et la deuxième donc, citation, acte 3, scène 5, où là on voit vraiment le tournant de cette relation. Ô Dieu, ô, comment empêcher cela, nourrice ? Mon époux est sur la terre et ma foi est au ciel. Pour que la foi jurée me revienne ici-bas, il faut que mon époux, ayant quitté la terre, de là-haut me la rende. Console-moi, hélas, conseille-moi. Hélas, le ciel tend donc des pièges à une créature aussi frêle que moi. Qu'en dis-tu ? Pas la moindre parole de joie, un mot de réconfort. Ma foi, voici. Banni est Roméo, et il y a gros à parier qu'il n'osera jamais venir vous réclamer. Ou, s'il le fait, ce ne peut être qu'en cachette. Et bien, au point où sont les choses, mon avis, c'est que le mieux pour vous est d'épouser le comte. Et c'est un gentilhomme aimable. Roméo, à côté, c'est une lavette. Un aigle, madame, n'a pas l'œil aussi vert, aussi vif, aussi beau que Paris. Sur mon âme, je pense que la chance est pour vous en ce second mariage. Ce mari-ci vaut mieux que l'autre, et en tout cas, votre premier est mort, ou du moins c'est tout comme, car il vit loin d'ici et ne vous sert à rien. Pas besoin de vivre loin pour servir à rien, mais bon. Me parles-tu du fond du cœur ? Oui, et de l'âme, sinon qu'ils soient maudits tous deux. Ainsi soit-il. Quoi ? Eh bien, cela s'appelle une aide merveilleuse. Rentre et dis à la mère que je vais voir le frère dans sa cellule pour confesser le déplaisir fait à mon père et recevoir l'absolution. J'y cours, ma foi, c'est là agir fort sagement. Antique damnation, ô démon pernicieux, quel péché n'est-ce pas de me vouloir parjure ? Ou pire encore, de dénigrer par cette bouche qui des milliers de fois l'avait dit son pareil, mon bien-aimé. Va donc, perfide conseillère, entre toi et mon cœur, c'est fini à tout jamais. Je vais trouver le frère et savoir son remède. Si tout me fait défaut, la mort me soit en aide. Donc on voit Juliette, pour se débarrasser finalement de la nourrice, lui fait croire qu'elle continue à écouter ses conseils, alors que là on est vraiment dans une situation très théâtrale où Juliette ne va pas du tout suivre cet avis-là et se retourner vers Frère Laurent. Et malheureusement, cette succession d'actions qu'elle a décidées va les conduire à leur mort. Et pour terminer, je voudrais vous parler donc du roi Lear et de ses trois filles. Le roi Lear, au tout début de la pièce, va décide de transmettre le pouvoir à sa descendance. Et donc, il réunit ses trois filles et il va diviser le territoire en trois tiers, mais en essayant de savoir laquelle des trois aura un tiers plus grand que les autres. Donc, sans être très matheux comme vous l'avez vu tout à l'heure, je pense qu'il est un peu difficile d'avoir un tiers plus grand que les autres. Mais pour justement avoir ce tiers un peu plus conséquent, il faut que les filles déclarent à leur père à quel point elles l'aiment. Et donc là, on est dans une situation vraiment théâtrale par excellence. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'hypocrisie, mais au sens théâtral. L'étymologie d'hypocrisie nous renvoie vers le théâtre, puisque cela signifie la réplique. Et on est vraiment dedans. Et donc, là, on a un roi qui est un peu différent, c'est que au lieu d'être tué pour être destitué de son pouvoir, c'est lui qui donne son propre pouvoir. C'est une société qui paraît patriarcale, mais on se rend compte quand même que là encore, ce sont les femmes qui vont tirer les ficelles de la tragédie. Et donc, dans cette première scène d'exposition, on a justement le discours des trois filles pour leur père. Dites-moi, mes filles, puisque nous voulons maintenant nous dévêtir à la fois du pouvoir, des droits territoriaux, des soucis de l'État, de laquelle dirons-nous qu'elle nous aime le plus, afin que nous placions notre don le plus ample où nature et mérite le réclament ensemble. Gonoril, notre aînée, parle en premier. Sire, je vous aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, bien plus que ma vue, qu'espace et liberté. Au-delà de ce qu'on peut priser de précieux ou de rare, pas moins que la vie, avec la grâce, la santé, la beauté, l'honneur, autant qu'enfant est aimé et jamais aimé, ou père ait été aimé, d'un amour qui rend la parole indigente et le verbe impuissant. Plus qu'aucun, autant ne peut le dire, je vous aime. Donc on voit bien dans le début de la réplique, ah non mais, il n'y a aucun mot qui puisse dire mon amour, et elle vous en sort toute une tartine de grands mots, d'images qui se veulent poétiques. Donc on voit vraiment la contradiction ici. Hein. Et Cordélia, elle, n'est pas dupe, et donc va dire, que va dire Cordélia, aime et tais-toi. De tout ce pays, du trait ici jusqu'à cet autre, enrichi de forêts ombreuses et de plaines, et d'abondants cours d'eau et de vastes prairies, nous te faisons maîtresse, qu'il soit votre descendance à tous deux pour toujours. Que dit notre seconde fille, notre très chère Regan, épouse de Cornouailles ? Ma sœur et moi, nous sommes d'une même étoffe, et je m'estime à sa valeur. Mon cœur fidèle me dit qu'elle nomme l'amour que je vous porte, mais elle reste en deçà. Je déclare, en effet, que je hais, quant à moi, toutes les autres joies que peut éprouver la perfection des sens, et je me trouve bien heureuse seulement dans l'amour de votre chère majesté. À ce moment-là, son mari est juste à côté et l'entend. Hein. Donc, là, elle est encore, en gros, en train de nous dire... Bon, en fait, mon mari, je m'en fous un peu, c'est vous que j'aime le plus. Voilà, donc c'est un peu, encore une fois, une hypocrisie complète. Cordélia, alors pauvre Cordélia, et pourtant non, car mon amour, j'en suis sûr, pèse plus que ma langue. Qu'à toi, tes héritiers appartiennent à jamais cet temple tiers de notre beau royaume, qui vaut bien en étendue valeur et agrément le lot de Gonril. Que pouvez-vous dire pour gagner un tiers plus opulent que celui de vos sœurs ? Parlez. Rien, monseigneur. Rien ? Rien. Rien ne vient de rien. Parlez à nouveau. Malheureuse que je suis, je ne peux soulever mon cœur jusqu'à mes lèvres. Il en manquait des lettres là ici. Pardon. J'aime votre majesté comme votre lien le veut, ni plus ni moins. Voyons, voyons, Cordélia, corrigez un peu vos paroles de peur de ruiner votre fortune. Mon beau seigneur, vous m'avez engendré, élevé et aimé. En retour, je vous rends les devoirs qu'il convient. Vous obéis, vous aime, entre tous vos honneurs. Qu'ont à faire mes sœurs d'un mari si elles disent n'aimer que vous seul. Donc là, on voit hein, que Cordélia, elle n'est pas du tout dupe de cette mascarade qui se joue à la cour. Peut-être, quand je me marierai, le Seigneur dont la main doit recevoir ma foi emportera la moitié de mon cœur, de mes soins et devoirs. Pour sûr, je ne me marierai jamais comme mes sœurs. Est-ce bien ton cœur qui parle ainsi ? Oui, mon bon Seigneur. Si jeune et le cœur si sec ? Si jeune, mon Seigneur, et sincère. Eh bien, soit. Que ta sincérité soit donc ta dot, car par l'éclat sacré du soleil, les mystères des quatre et de la nuit, par l'opération des astres par qui nous sommes et cessons d'être, je désavoue ici toute ma sollicitude de père, tout lien de parenté, communauté de sang, te tiens pour étrangère à mon cœur et à moi de ce jour à jamais. Le Cid, ce barbare, ou celui-là qui fait de sa progéniture des plats dont il se goinfre, trouveront dans mon sein autant de cordialité, de pitié, de secours que toi, jadis, ma fille. Et à ce moment-là, donc, Lear va bannir Cordélia, elle va partir en France, et va alors commencer un espèce de balancier entre les deux autres filles, puisque le père dit, bon, ok, je vous donne le pouvoir, c'est vous qui maintenant donc avez le royaume, par contre, je voudrais garder une armée. Et là, les filles, elles commencent à dire, bon, non, 100 hommes, c'est trop, 25, non, c'est encore trop. Donc, petit à petit, elles vont vraiment ruiner tout ce qui peut rester de leur père. Et puis, le père, il va dire aussi, bon, bah, je vais vivre aussi à tour de rôle chez l'une et chez l'autre. Et là, les filles sont bien embêtées parce qu'elles ont beau l'aimer autant qu'elles le disent, aucune des deux ne veut son père. Et donc, Lear va commencer à aller chez l'une, puis bah, il va comprendre qu'il n'est pas bienvenu, il va aller chez l'autre, jusqu'à finalement se retrouver vraiment démuni. On a une scène où il est dans la tempête, où là il est vraiment mis à nu, il comprend un peu bah, que tout se joue, tout et tous se jouent contre lui. Et c'est Cordelia qui va attaquer l'Angleterre avec le roi de France, qui va venir sauver son père. Et alors dans le roi Lear, on a une vraiment la dernière scène, hein, ils meurent tous un peu les uns après les autres, c'est un peu comme Hamlet. Et Cordelia et Lear vont mourir ensemble. D'abord Cordelia, on verra Lear rentrer avec le corps de sa fille sur scène, qui est à mon avis ici la manifestation physique de leur réconciliation. Puis il va mourir, mais il va pouvoir mourir en paix puisque il a vu la vérité avant de décéder. Donc, pour conclure, on voit que les personnages de Shakespeare, les personnages féminins pardon de Shakespeare sont minoritaires. On le voit par la composition des troupes. On a peu de jeunes hommes disponibles. Et puis également l'interdiction des femmes qui explique donc ce phénomène. Pourtant, même si ces rôles ne sont pas très très nombreux, ce sont souvent des grands rôles, des rôles qui sont complexes. Ce sont des personnages de pouvoir, parfois cruels comme Lady Macbeth, parfois victimes comme Lavinia, qui vont être attachants. Cordelia est sans doute, pour moi en tout cas, l'un des personnages les plus attachants de ce théâtre-là. Et Shakespeare finalement s'intéresse aux femmes dans un monde du théâtre qui est très masculin, puisqu'il ne peut pas les mettre en scène. Et je me suis posé la question, mais bon, est-ce que le monde du théâtre a finalement bien changé? Il y a un rapport qui a été publié l'année dernière, donc on va faire un bond du 16e au 21e siècle, qui nous dit qu'à l'heure actuelle au théâtre, 81,5% des postes dirigeants de l'administration culturelle sont occupés par des hommes. Ce déséquilibre touche tout autant l'artistique que l'administratif. Les hommes sont à la tête de 75% des théâtres nationaux, 85% des centres dramatiques et 96% des opéras. Quant au concept de chef d'orchestre, chef au féminin, c'est assez théorique puisque 95% des concerts sont aussi dirigés par des hommes. 85% des textes sont joués par des textes d'auteurs sans E et mis en scène à 78% par des hommes également. Et à l'Odéon, qui est dirigé par Luc Bondy, la saison dernière, 14 spectacles mis en scène par 14 hommes. Aucune femme. Alors avant d'assister à une rébellion féminine ou féministe dans la salle, je vais appliquer à moi-même un précepte shakespearien extrait d'Henri V qui dit « Les hommes qui parlent le moins sont les plus vaillants ». Alors je vous remercie et je me tais.